France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Inno face à Lemon, ou l'histoire d'un duel fratricide sur les routes du Tour de France 1986. D'un côté, Bernard Hinault, donc, 32 ans, breton pur jus, quintuple vainqueur du Tour, parrain du peloton et chouchou du public. De l'autre, Greg Lemon, 25 ans, américain originaire du Nevada, gamin surdoué et coéquipier modèle d'Hinault au sein de l'équipe Lavie-Claire. D'ailleurs, à quelques mois de sa retraite programmée, le roi Hinault désigne Lemon comme son successeur légitime. Il a même promis de l'aider à remporter son premier tour. Mais rien ne va se passer comme prévu. Pendant 3 semaines, la France va vivre au rythme de ce duel entre l'ancien et le nouveau monde, entre psychose, trahison et partie de poker menteur. Un duel épique qui va redessiner les contours du Tour et faire entrer le cyclisme dans une nouvelle ère, celle des années fric. Notre invité aujourd'hui, Pierre Carré, journaliste pour le quotidien suisse Le Temps, spécialiste du cyclisme et fondateur du site Direct Vélo. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Raphaël Puyot, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Mauvaise condition météo, hélas, sur cette étape du Tour de France qui nous conduit, ou qui nous conduisait de l'Alpe d'Huez à Morzine, et ça ne nous permettra pas de vivre avec vous en direct de la dernière ascension, la 8e de la journée.
18 juillet 1978, col de Jouplane, dans les Hautes-Alpes, altitude 1712 mètres. Ce jour-là, la brume enveloppe la route tortueuse qui relie Samoins à Morzine, théâtre de la 17e étape du Tour de France. Au bord de l'asphalte détrempé, un ado chétif aux yeux bleus scrute avec attention l'arrivée des coureurs, emmitouflés dans un caouis blanc. Il s'appelle Greg Lemon. Originaire du Nevada, ce jeune Américain de 18 ans est venu en France avec quelques dollars en poche pour voir, de ses yeux voir, son idole Bernard Hinault. Étonnant parce qu'à la fin des années 70, le cyclisme reste un sport très confidentiel aux États-Unis, snobé par les diffuseurs télé. Au pays du baseball et du football américain, Lemon est donc une anomalie. Son truc à lui, enfourcher son vélo et enchaîner les kilomètres, seul, dans les montagnes de la Sierra Nevada. Le week-end, il part affronter les meilleurs coureurs de la côte ouest, et chaque week-end, Greg écrase la concurrence. Mais pour Lemon, le cyclisme est bien plus qu'une passion. C'est son exutoire, sa rédemption. Victime d'abus sexuels durant son enfance, c'est grâce au vélo qu'il a réussi à enfouir son traumatisme sans jamais en parler à personne. Histoire de retrouver le goût de vivre. Alors, quand il se retrouve, en ce 18 juillet 78, sur les pentes du col de Jouplane, le jeune Lemon est dans son élément, entouré de supporters chauffés à blanc. Quand tout à coup, un météore bleu-blanc-rouge fend la brume et enflamme le cœur de millions de Français.
Le sprint est lancé ici par Bernard Hinault, zone mise dans sa roue. Agostino ne bouge pas et Lüderling fait l'effort. Voilà donc comment on va aller chercher un maillot jaune. C'est extraordinaire. Voilà comment, parce que Bernard Hinault a une chance de prendre pour 4 secondes le maillot jaune à 2 semaines, tout en ayant très mal joué son coup.
Quelques jours plus tard, Hinault remporte son premier Tour de France à seulement 23 ans. Dans le documentaire The Last Rider, Lemon se souvient parfaitement de ce Tour 78.
La route était noire de monde. Cette atmosphère, cette énergie, c'était une expérience magique, probablement la meilleure de toute ma vie. Et évidemment, Hinault était comme un dieu pour moi. Les gens peuvent me traiter d'idéaliste, mais le Tour me semblait pur. C'est exactement ce dont j'avais rêvé pendant toutes ces années, et je me suis dit ce jour-là, ok, c'est ce que je veux faire de ma vie.
Dans l'avion qui le ramène chez lui, le jeune Lemon griffonne ses quelques lignes sur un petit carnet d'écolier. 79, gagner les championnats du monde junior, 80, décrocher l'or olympique, et objectif ultime, remporter le Tour de France 86. Mais alors, comment expliquer la fascination du jeune Lemon pour Hinault, cet ouvrier ajusteur issu d'une lignée d'agriculteurs? Lui, Lemon, qui a grandi dans une famille aisée de la côte ouest des États-Unis. Eh bien, pour comprendre cette inomania, il faut revenir un an en arrière, le 4 juin 1977. Ce jour-là, plus de 6 millions de Français sont branchés sur Antenne 2 pour suivre le final de la 6e étape du Critérium du Dauphiné entre Romans-sur-Isère et Grenoble. À l'écran, un jeune rookie de 22 ans, inconnu du grand public. Maillot jaune sur le dos, il plonge dans la descente du col de Vence à plus de 80 km/h.
Bernard Hinault, seul en tête de cette étape. C'est la démonstration formelle des qualités de celui qui maintenant s'affirme le grand champion français que l'on attendait.
Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, Hinault, oh! Hinault est rentré dans les ravigeons, les Cyril Guimard se précipite, les photographes également. Oh là là, le temps s'écoule, près de 20 secondes maintenant qu'Hinault est tombé, la caméra est devant lui.
Il est 15h15, sur la route du Critérium du Dauphiné. Le maillot jaune vient de disparaître dans le ravin. Est-il blessé? Est-il mort? Personne ne sait, mais tous attendent au pire. Quand tout à coup, une main surgit des abîmes. Amorti dans sa chute par un arbre providentiel, Hinault est bel et bien vivant. La cuisse droite labourée, le front en sang, l'animal blessé se hisse sur la route, aidé par son directeur sportif, Cyril Guimard, ancien grand coureur, lui aussi. Au même moment, le photographe du journal L'Équipe saute de sa moto et appuie sur le déclencheur de son appareil. Sur cette image, christique, en noir et blanc, tout est déjà là. Le rictus carnassier du champion, la mâchoire serrée, les yeux noirs injectés de sang et dans son regard, une folle volonté de gagner. Seul en tête, le miraculé du ravin descend toujours aussi vite, comme si la mort n'avait pas de prise sur lui. « Cyril, les écarts, donne-moi les écarts !» crie Hinault, littéralement possédé. Il reste 2 km avant l'arrivée. La descente est derrière lui. Mais une dernière difficulté attend le coureur breton. La Bastille, un fort militaire construit au-dessus de Grenoble, accessible par une petite route qui serpente entre les vignes. Alors, tel un automate, Hinault se dresse sur les pédales, encouragé par une foule compacte. La pente est abominable. 15% de moyenne, avec des passages à près de 30%. À 15h25, nouveau coup de théâtre. Le maillot jaune pose pied à terre à bord de l'implosion. Alors qu'il titube sur l'asphalte, son directeur sportif l'oblige à remonter sur son vélo pour finir le travail. Le reste appartient à la légende. En martyr révolutionnaire, Bernard Hinault prend le fort de la Bastille, remporte le Critérium du Dauphiné et gagne le cœur des Français.
Voilà, la dernière ligne droite longue de 50 mètres et puis l'arrivée. Il a des ressources, encore regardez-le, des ressources physiques et d'énergie admirables. Il gagne en grand champion dans tous les domaines. Il est blessé au visage aussi, Bernard Hinault, au coude et aux deux bras.
En 1977, Plastique Bertrand domine le 8 parade avec sa plane pour moi. Jacques Chirac est élu maire de Paris et Sylvester Stallone est en tête du box-office avec Rocky. Mais cette année-là, c'est bien Bernard Hinault qui fait la une de l'actualité. C'est lui le tube de l'été, l'homme providentiel, le boxeur infatigable. En quelques mois, son nom dépasse les frontières et se répand dans les journaux comme une traînée de poudre. Sa spécialité, attaquer là où on ne l'attend pas, avec un énorme braquet et le vent comme seul compagnon d'échappée. Son carburant, dominer, punir et humilier ses adversaires. Dans le documentaire Hinault, le dernier roi du vélo, l'intéressé s'explique sur cette sensation de toute puissance.
Et le premier, ce sera sans problème Bernard
Hinault. C'est une certaine jouissance quand tu gagnes. Tu passes la ligne et tu te dis, c'est moi le meilleur. Je leur ai mis vraiment une volée, quoi, une plumée. Quoi. T'as ce plaisir que tu ressens, tu te dis, ça y est, encore une. Quoi.
Homme de peu de mots, Hinault, le punisseur, préfère la castagne à la diplomatie. Comme le confient plusieurs de ses coéquipiers aux journalistes, il ne connaît qu'une seule vérité, la sienne. En juin 76, quand son directeur sportif décide de lui imposer un programme de course trop chargé à son goût, il l'empoigne par le col et menace de le défenestrer. Quelques années plus tard, le 12 mars 84, alors que les ouvriers grévistes viennent d'interrompre la 5e étape de Paris-Nice, Hinault voit rouge et assène un crochet du droit à l'un des manifestants. Le lendemain, dans les journaux, on le compare au boxeur Marcel Cerdan, avec qui il partage cette même mâchoire carrée, ses épaules de lutteur et ce torse de colosse grec, malgré son 1,70 m. Mais dans le peloton, Hino est comparé à une autre bête fauve. Il a même hérité d'un surnom qui lui colle à la peau, le blaireau. En 83, le réalisateur Yann Parenthoven lui consacre un portrait radiophonique sur France Culture. Et pour mieux cerner le champion breton, il fait appel à un zoologiste spécialisé dans l'étude du blaireau.
Au Japon, c'est là-bas le symbole de la ruse et de la tromperie sans méchanceté, dans le sens de vieux roublard. C'est un animal social, il vit en compagnie bien sûr, mais c'est la débrouille, c'est chacun pour soi. Il est très solitaire dans la recherche par exemple de la nourriture. Au Danemark, les chasseurs de blaireaux avaient coutume de chausser chacun deux paires de bottes, m'entendez, séparées entre elles par une couche de charbon de bois au niveau de la cheville, car l'animal avait la réputation de mordre et de ne lâcher prise qu'en en entendant craquer les os.
À la fin des années 70, Hino est déjà à la tête du cyclisme mondial. Quant à Greg LeMond, il s'en tient à son plan. En 79, l'Américain devient champion du monde junior à Buenos Aires. L'année suivante, il est sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques de Moscou, que les États-Unis décident de boycotter à cause de l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Qu'importe, LeMond part tenter sa chance en Europe dans une équipe belge. Et rapidement, ses performances attirent les convoitises de Cyril Guimard, patron de l'équipe Renault et menteur d'Hino. À la fin de la saison, les deux Français embarquent à l'aéroport Charles de Gaulle, direction New York, embarquant un journaliste de TF1.
Bon, alors je crois qu'on va procéder aux présentations.
Il s'agit de Greg LeMond qui habite donc au Nevada. Il a 19 ans et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de créer en lui et j'espère qu'on pourra faire le maximum.
Greg LeMond, est-ce que vous êtes un nouveau Bernard Hino?
Je ne sais pas. Bernard est très très bon. Il est difficile pour moi.
Après avoir profité des plaisirs de New York, Guimard et Hino s'envolent au Nevada pour rencontrer l'oiseau rare, LeMond, dans son entourage quotidien. Chapeau de cow-boy sur la tête, veste en daim sur les épaules et Santiago au pied, les deux Frenchies posent fièrement aux côtés d'un LeMond BA. Dire cadeau, il placardait des posters d'Hino sur les murs de sa chambre, le voilà désormais avec son idole, chez lui, au Nevada. Alors quand Guimard lui propose de rejoindre l'équipe Renault pour devenir l'apprenti du blaireau, tout en lui promettant de devenir son successeur, le jeune LeMond accepte les yeux fermés. Une fois le contrat signé, les trois hommes partent pour une partie de chasse à la caille, avec le lac Tahoe et la Sierra Nevada en toile de fond. La suite, c'est Greg LeMond qui la raconte dans le magazine Pédale.
Nous étions en train de marcher tranquillement dans la forêt près du lac quand tout à coup, Bernard a tiré avec son fusil. La balle a ricoché sur moi. Mon visage était en sang et particulièrement au niveau de mon œil. Pendant un moment, j'ai cru que j'allais devenir aveugle. À l'époque, je ne parlais pas très bien français et je criais « Je suis blind, je suis blind !» 20 minutes plus tard, tout est finalement rentré dans l'ordre et le saignement s'est arrêté.
Quelques semaines plus tard, le 9 janvier 81, LeMond s'envole vers la France avec sa femme Cathy. À eux, le rêve européen. Le couple emménage dans un petit appartement de Nantes, tout proche du QG de sa nouvelle équipe et de son patron, Cyril Guimard. Celui qui se fait appeler le druide, oui, ou encore Napoléon. Et non seulement un stratège hors pair, mais c'est aussi un visionnaire. Terminé les entraînements approximatifs, la viande rouge au petit-déjeuner, non. Place aux tests en soufflerie, au cadre sur mesure et au suivi médical. Résultat, de 1976 à 1983, Hino rafle tout sur son passage. 4 Tours de France, 2 Tours d'Italie, 2 Tours d'Espagne et un titre de champion du monde, entre autres. Quant à LeMond, il fait sensation. Dès sa première année chez Renault, il termine 3e du critérium du Dauphiné et 2 ans plus tard, il devient champion du monde à son tour. LeMond, c'est l'avenir, croyez-moi, il a tout pour réussir, lance fièrement Hino en conférence de presse. Si l'Américain s'épanouit aux côtés du blaireau, avec qui il passe plus de 200 jours par an, en coulisses, leur relation se dégrade entre Hino et Guimard, jusqu'au divorce. Parce que Guimard tient son nouveau prodige, un équipier d'Hino. Il s'appelle Laurent Fignon et il vient de gagner le Tour de France 83. Alors, à la fin de l'été, le Breton lance un ultimatum à Renault. C'est Guimard ou moi ? Le 6 septembre 1983, le couperet tombe, Hinault doit s'en aller. Qu'importe, le blaireau en a vu d'autres. En quelques semaines, il met sur pied une équipe et s'entoure d'un nouvel entraîneur, Paul Koechli, un Suisse aux allures de moine janséniste qui peut se targuer d'avoir formé Cyril Guimard. Voilà, tout est réuni pour conquérir un cinquième tour. Reste à régler un détail de taille. Trouver un sponsor. Après plusieurs tentatives infructueuses, Hinault décroche un rendez-vous avec un homme d'affaires parisien. Son nom ? Bernard Tapie.
Bernard Tapie, en quelques années, il a sauvé 7000 emplois. Et ce faisant, s'est constitué à bon compte, uniquement à partir d'entreprises jetées à la casse, un groupe industriel qui vaut déjà son pesant de milliards.
Il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent. C'est lui qui va déterminer celui qui réussit beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Or, pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires avec une volonté féroce de gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
En 83, les Américains ont la série Dallas. En France, il y a Bernard Tapie. Charmeur, flambeur, bluffeur, hableur, l'homme d'affaires est vu comme un sauveur par les uns, un prédateur pour les autres. Celui qui sillonnait la région parisienne pour vendre des téléviseurs s'est reconverti avec succès dans la reprise d'entreprises en perdition. Alors, quand le quadruple vainqueur du Tour vient frapper à sa porte, Tapie voit une opportunité en or. Pourquoi ne pas utiliser le sport pour nourrir son ambition dévorante, lui qui rêve d'un destin politique ? C'est vrai, quelle meilleure vitrine que le Tour, hein ? Un événement populaire qui rythme chaque été la vie de millions de Français. Et puis le cyclisme est une aubaine. C'est un sport encore tout jeune économiquement, peu structuré et sous-coté. Il y a donc tout à inventer, tout à exploiter. Le 25 septembre 83, sur le plateau de Stade 2, Hinault fait entrer le loup dans la bergerie.
Toute la France attend de savoir ce que va décider Bernard Hinault. Pour qui courrez-vous l'année prochaine ?
Ben, je crois que je peux annoncer cette bonne nouvelle, c'est que la personne avec laquelle on s'est très bien entendu et je pense qu'on travaillera très très bien, c'est M. Bernard Tapie. I want to ride my
I say white,
you say bar,
I say bite,
you say shark,
I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars,
you say Rose,
I say Royce,
you say God,
give me a choice,
say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le duel Hinault-Lehmann Tour de France 86.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Hinault a donc une équipe, un mécène et un budget illimité. il lui faut désormais un nom et un maillot. Tapie vient de racheter la chaîne de supermarchés La Vie Claire pour un franc symbolique. Ce sera donc l'équipe La Vie Claire. Quant au maillot, il doit être futuriste, à la hauteur de l'ambition démesurée de l'homme d'affaires. Inspiré de l'œuvre du peintre Mondrian, avec ses couleurs primaires et son design intemporel, le maillot La Vie Claire ringardise les autres équipes et devient même iconique. Au passage, les coureurs jusque-là payés au SMIC voient leur salaire doublé, voire triplé. Avec Tapie, le cyclisme bascule dans une nouvelle ère, l'ère du sport business, l'ère des années fric.
Vous avez devant les yeux, et il y en a pas mal qui le pensent comme moi, la meilleure équipe cycliste professionnelle du monde aujourd'hui.
16 juillet 84, 17e étape du Tour de France. Ce jour-là, sur les pentes de l'Alpe d'Huez, Hinault se fait humilier par son ancien coéquipier Laurent Fignon, qui le dépasse sans un regard. Tapie comprend alors qu'il ne remportera pas le Tour cette année. Ses détracteurs, à commencer par Cyril Guimard, se frottent les mains. Mais Tapie a plus d'un tour dans son sac. Cela fait plusieurs mois qu'il travaille en secret sur une nouvelle pédale révolutionnaire inspirée des fixations de ski, nom de code Look. L'idée de Tapie est simple. Attirer Lemon dans son équipe pour aider Hinault à remporter un cinquième tour, tout en l'utilisant pour mettre un pied sur le marché américain afin de lancer sa nouvelle pédale Look. Le soir même, Tapie met son plan à exécution. La suite, c'est Lemon qui la raconte dans le documentaire Slowing the Badge.
J'étais dans un hôtel de l'Alpe d'Huez. Je me souviens de cette femme. Elle est arrivée sur une grosse moto avec un casque noir et une combinaison en cuir. Une femme tout droit sortie d'un James Bond. Monsieur Lemon, Monsieur Tapie aimerait vous voir. Il s'agit d'un sujet confidentiel, venez avec moi. On arrive dans un autre hôtel et là je tombe sur Tapie et Hinault. Il me montre cette pédale automatique, la pédale Look. Tapie me dit qu'il me veut pour le marché américain, que cette pédale va tout révolutionner. Puis il me dit, je vais faire de toi un millionnaire.
Pour clore le deal, Tapie abat ses dernières cartes. Il promet de lui reverser $1 sur chaque pédale vendue. Et surtout, il lui fait une offre à $1 million sur 3 ans, soit 3 fois plus que son salaire au sein de l'équipe Renault. Lemon est convaincu. Un an plus tard, en l'absence du tenant du titre Laurent Fignon, blessé au tendon d'Achille, Hinault est le grand favori du Tour 85. Ray-Ban en or sur le nez, maillot jaune sur le dos, il écrase et contre la montre et contrôle ses adversaires en montagne, parfaitement épaulé par Lemon, qui se sacrifie pour son idole. Et le 21 juillet 85, Hinault remporte son 5e tour. Tapie a réussi son pari. Avec ce 5e sacre, Hinault symbolise cette France qui gagne, aux côtés de Platini à l'époque, Noah, Prost, mais surtout, il rejoint la caste des titans aux côtés de Merckx et Anquetil, les recordman du Tour. Le soir, en direct à la télé, le Breton ne manque pas de rendre hommage à son pygmalion.
Il y a une chose qui est certaine, si Bernard Tapie n'avait pas eu confiance en nous et nous avait donné les moyens de réaliser ce que l'on fait, je crois que je ne serais peut-être pas là.
Alors maintenant, un 6e tour ?
Non, ça suffit.
Six fois comme ça, vous aurez battu Anquetil, vous aurez battu Merckx.
Il faut aussi donner un peu l'expérience que l'on a et je pense que Greg, l'année prochaine, aura besoin de moi.
Oui, c'est un peu facile. Il dit déjà dès le départ, c'est Greg qui gagnera. Comme ça, s'il perd, il n'a pas de problème.
C'est pas son genre. S'il annonce dès le départ que c'est Greg qui gagnera, ça veut dire que Greg est le vrai leader de l'année prochaine.
Quelques heures plus tard, dans un bar privatisé par l'équipe La Vie Claire, le blaireau réitère sa promesse à Lemon. « Sans toi, je n'aurais pas pu gagner ce 5e tour. Alors l'an prochain, je bosse pour toi et tu gagnes ton premier. » Lemon leader, Hinault coéquipier de luxe, parole de Breton. Sauf que Tapie lui a une autre idée. Pourquoi ne pas capitaliser sur cette ferveur populaire en visant un 6e tour historique pour Hinault, pour dépasser Merckx et Anquetil ? Il faut dire que la Hinomania a du bon pour Tapie. Les ventes de looks s'envolent et les magasins La Vie Claire se multiplient partout en France. Le public, les journalistes et même le président de la République, François Mitterrand, qui lui remet la Légion d'honneur en janvier 86, tous rêvent de voir un Français écrire l'histoire de la plus grande course du monde. D'autant que cette année-là sera la dernière saison du blaireau. Lemon, lui, reste confiant. Hinault a toujours tenu parole. Et puis, il le considère comme son mentor, comme son grand frère. Le 4 juillet 1986, c'est le grand départ du Tour. Les médias américains n'ont Dieu que pour Lemon, les Français pour Bernard Hinault.
C'était en 1978, nous le présentions pour son premier Tour de France. Il allait s'imposer 8 ans après. Il dispute son dernier Tour de France. S'il s'imposait, il deviendrait recordman absolu avec 6 succès. Son nom, Bernard Hinault.
Oh 15 juillet 1986, 12e étape entre Bayonne et Pau. Il est 14h33 sur la route du Tour. Le peloton traverse le village des Lannes en Barretou. Après avoir disputé un sprint intermédiaire, les coureurs prennent le temps de souffler, quelques kilomètres avant le ravitaillement. Quand tout à coup, une annonce vient réveiller les téléspectateurs assoupis.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ici sur la route du Tour de France, avec 3 hommes en tête et non des moindres, puisque le protagoniste numéro 1 de ce Tour de France est Bernard Hinault, qui se trouve en tête en compagnie de son coéquipier Jean-François Bernard, l'Espagnol Pedro Delgado. Ces 3 hommes se sont échappés peu après Aramitz, à la faveur d'une accélération de Jean-François Bernard.
À l'arrivée à Pau, le couperet tombe. Lemon accuse 5 minutes de retard sur Hinault qui s'empare du maillot jaune. Elle est où la promesse? Alors la guerre est déclarée entre le grand et le petit frère. Sur le podium, le Breton jubile. Le Tour est plié. Et les promesses de juillet pour que Lemon gagne le Tour se sont envolées. Le lendemain matin, dans le bus de l'équipe de la Vie Claire, l'entraîneur Paul Koechlin donne ses dernières consignes avant l'étape du jour. Jean-François Bernard, le coéquipier d'Hinault et de Lemon, est aux premières loges. Et il revient sur cette journée surréaliste dans le documentaire « Parole de blaireau ».
On est réunis et la seule chose qu'on dit, surtout, Bernard, tu attaques pas. Tu restes dans le peloton, de toute façon, t'as juste à suivre. Et d'un seul coup, pam, il s'en va. Sur le coup, on s'est dit, c'est pour rigoler, enfin bon, voilà quoi, il fait ça, on lui a dit de pas le faire... Non, mais c'est que là, c'est 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Donc là, il est parti pour assommer le Tour.
Comme la veille, il nous remet ça, à plus de 80 km de l'arrivée. Les secondes défilent, puis elles deviennent des minutes, et derrière, Lemon vit une deuxième journée en enfer. Je vais tous les mettre à 15 minutes, clame fièrement Hinault à son entraîneur.
Bernard Hinault écrase actuellement.
Il n'y a plus rien à dire, Jacques.
C'est Bernard Hinault qui domine la situation d'une façon insolente. Et là, il prend vraiment les risques, crânement, comme il sait le faire.
Devant, Hinault explore seul le paysage. Derrière, Lemon est piégé. Il ne peut pas attaquer, au risque de ramener dans son sillage ses adversaires et donc de mettre en danger le maillot jaune d'Hinault. Mais à quelques kilomètres du but, c'est la panne sèche. Le Breton a volé trop près du soleil, grisé par sa force. Ses ailes sont en feu. Dans la montée finale, Lemon dépasse un homme mort, sans un regard. À super bannière, l'Américain lève les bras et se relance dans la course au maillot jaune.
Premier Américain, donc, vainqueur d'une étape de montagne.
Je crois qu'il mérite ses applaudissements.
Toujours pas là, cette ligne d'arrivée. Qui sont longs, ces 50 derniers mètres. Qui sont longs.
Victoire, donc, de Greg Lemon.
Et voilà.
3 jours après sa défaillance, et alors que son maillot jaune ne tient plus qu'à un fil, Hinault fait ce qu'il sait faire de mieux, attaquer. Une énième impression de déjà-vu pour Lemon. Piégé, sans équipier pour l'épauler, il se retrouve à collaborer avec ses propres rivaux. À l'arrivée, l'Américain n'a rien perdu sur le Breton, mais il est à bout de nerfs. Il menace même de quitter le Tour. Car depuis plusieurs jours, l'équipe La Vie Claire est divisée en 3 clans. D'un côté, les coureurs américains et canadiens, de l'autre, la bande à Hinault, et au milieu, les Suisses. Pas forcément neutres, pour une fois. Alors que fait Bernard Tapie? Eh bien, il fait du tapis. Il rassure Lemon, puis quelques minutes plus tard, il joue au pompier pyromane au journal de 20h.
La rivalité entre vos 2 leaders est-elle excessive?
Ah ben, elle est tout à fait logique, dans la mesure où, depuis le départ, on sait que tous les deux sont animés du même désir, qui est bien compréhensible d'ailleurs, c'est de gagner le Tour de France. Et je pense que le meilleur gagnera, car c'est le terrain qui déterminera quel est le plus fort des deux.
Bernard Tapie, vous avez un petit faible pour l'un des deux champions?
Bien sûr, j'ai pas un petit faible, j'ai un gros faible pour Bernard Hinault. parce que je l'aime, parce qu'il est français, parce que ça me ferait plaisir qu'il gagne un sixième Tour de France alors que Greg a encore le temps. Mais on a accepté l'idée. L'année dernière, Greg s'est sacrifié pour Bernard. Cette année, on a promis à Greg qu'il serait co-leader et qu'il ferait son tour pour le gagner. Et on a comme objectif que le meilleur gagne. Et je suis sûr que c'est le meilleur qui gagnera.
20 juillet 86, 17e étape entre Gap et le col du Granon. Au bord des routes, le public français est en transe. Tous n'ont Dieu que pour Hinault. Leur Hinault, toujours en jaune, à 6 jours de l'arrivée à Paris. Mais dans l'avant-dernière difficulté du tour et du jour, une douleur au genou revient le torturer. Il pense même à l'abandon. Le terrible col du Granon devient son Golgotha. Ces charognards de journalistes, je ne vais pas leur faire ce plaisir, marmonne-t-il, la mâchoire serrée. À l'arrivée, Hinault dégringole à la 3e place du général. Lemon endosse le maillot jaune avec 3 minutes d'avance sur son coéquipier. Mais le public veut continuer d'y croire. Le lendemain, c'est l'étape Rennes entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Et là, dans la descente du col du Galibier, à 120 km de l'arrivée, Hinault s'échappe. Une manière de pousser les autres leaders à la faute pour aider Lemon ou pour un ultime fuck you à son frère américain? Dans la même descente, Lemon prend tous les risques et parvient à combler son retard. Après avoir lâché tous les concurrents, Hinault et Lemon arrivent seuls au pied de l'Alpe d'Huez, au milieu d'une foule en délire.
Une espèce de rayonnement chez Bernard Hinault, extraordinaire malgré le visage un peu tendu, mais pas tendu par la douleur, tendu par l'importance de l'événement.
Je suis surpris moi, de la performance de Bernard Hinault, je ne pensais pas capable de... d'escalader l'Alpe d'Huez de telle façon, après tout le travail qu'il a accompli sur ce tour et le travail qu'il a accompli au cours de cette étape aujourd'hui.
À bord de son espèce de papa mobile floqué la vie claire, Tapi décide alors de mettre en scène la réconciliation entre ces deux leaders. La victoire d'étape pour Hinault, le maillot jaune pour Lemon. À l'arrivée, les ordres du boss sont respectés. Les deux frères ennemis franchissent la ligne main dans la main. L'honneur d'Hinault est sauf, la victoire finale pour Lemon assurée.
Alors je vais essayer de regarder juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux. Et il est content, le père Bernard, il est content. Ah non, ce sera premier Hinault, deuxième Lemon.
Mais quelques minutes plus tard, alors que l'on pensait l'âge de guerre définitivement enterré, Hinault fait volte-face dans l'émission de Jacques Chancel.
Greg Lemon va gagner le Tour de France.
On n'est pas rendu au bout, hein, je dis.
Alors, donc, maintenant, on peut se faire la guerre tous les deux.
Ah, maintenant qu'on a assez d'avance.
Allez-vous vous faire la guerre tous les deux?
Si on se fait une guerre, ce sera une guerre loyale et ce sera le plus fort qui gagnera. Pourquoi pas jouer tout ça sur le compte de la montre?
Greg Lemon, vous aussi.
Je ne vais pas attaquer.
C'est le plus fort qui gagnera.
Oui, mais moi, je pouvais attaquer l'année passée aussi. C'est... Oui.
Ensemble, la main dans la main, moi, je pense que l'un d'entre vous aurait dû gagner. Mais pour la beauté du geste, cette image, elle est vraiment superbe. On va la retrouver dans l'histoire du sport, parce qu'elle est entrée maintenant dans la légende.
Pour Lemon, la fin du tour se transforme en véritable chemin de croix. Faites attention à votre vélo, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez et, par-dessus tout, à vos contrôles antidopage, lui répète en boucle Jacques Godet, le patron du tour. L'Américain sombre alors dans la paranoïa. Il prend tous les jours le départ avec la peur de se faire renverser par un des sbires d'Hinault ou même par un supporter fanatique. Et le soir, il s'enferme dans sa chambre et va même jusqu'à dormir avec son vélo, de peur d'un sabotage.
Premier Américain à remporter le Tour de France cycliste, Greg Lemon a donc retrouvé ce soir, ici sur les Champs-Élysées, et son légendaire sourire et sa naturelle décontraction. Il avait enfin conquis de haute lutte l'estime et l'admiration de plusieurs dizaines de milliers de Parisiens qui venaient de succomber définitivement à son charme.
Personnellement, ça me donne beaucoup plaisir de gagner. Maintenant, j'arrivais dans un sommet de mon carrière qui, c'est un espoir depuis j'ai 16 ans et j'ai fait presque... C'est la vraie raison que je suis venu en Europe, c'est pour gagner le Tour de France.
Le 27 juillet 1986, les 3 semaines de calvaire prennent fin pour Lemon. Sur les Champs-Élysées, il devient le premier Américain à remporter le Tour de France. 28 ans après, en 2014, Bernard Hinault a accepté de revenir sur ce Tour 86 dans un documentaire de SPN. Il est resté fidèle à lui-même, avec cette malice du blaireau qui le caractérise.
Mais il a gagné, donc j'ai tenu ma parole. Et si j'avais pas voulu tenir ma promesse, je pense que c'était facile.
par le biais de la course, de gagner.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Tour de France 86, Hino Facel, Lemon, notre invité Pierre Carré. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste pour le quotidien suisse Le Temps, spécialiste du cyclisme et fondateur du site Direct Vélo. Vous avez rencontré les deux principaux protagonistes de ce Tour 86. D'abord, que représente le duel Hino-Lemon dans l'histoire du Tour? On a connu d'autres duels, mais celui-là, comment il s'inscrit?
Alors il est fratricide et il y a assez peu de duels qui sont menés sous le même maillot. Mmh. Et alors, c'est tout le sel de ce Tour. D'abord, c'est le Tour d'un long déclin, parce que depuis 85, aucun Français n'a gagné le Tour de France. C'est le premier tour d'un début de sortilège. C'est aussi le tour des mensonges, le tour de la duplicité, parce qu'ils se sont beaucoup menti sur le vélo, beaucoup menti à l'époque, mais depuis, ils mentent encore. Et celui peut-être qui s'arrange le plus avec la vérité, c'est Bernard Hinault, parce qu'il s'est dit, tant qu'à perdre sur le vélo, d'accord, mais au moins je dois maîtriser le récit, je dois contrôler ma propre vie. Et donc, quelque part, Bernard Hinault s'est toujours attaché à faire croire que d'une certaine manière, il était le vainqueur de ce Tour 86.
Est-ce que dans le cœur des Français, il a réussi à avoir la même place qu'un Poulidor?
Disons que on a eu aussi des interprétations politiques, c'est-à-dire que Hinault coïncide avec le début d'un déclin industriel, par exemple. Les 30 Glorieuses sont enterrées, et d'ailleurs, c'est le moment où le cyclisme, lui aussi, est sur une pente légèrement déclinante. On ne s'en rend pas compte encore, mais le football est en train de prendre toute l'importance qu'il a encore
avec
aujourd'hui.
Avec l'équipe de Platini.
Absolument.
C'est le réveil de la France après 23 ans d'échec.
C'est la France qui gagne, c'est comme ça qu'on le dit encore. Et Hinault représente cette France qui gagne, mais qui est encore en péril. Parce que quand Tapie va le chercher, finalement, Tapie voit en lui ce qu'il a perçu dans des usines, c'est-à-dire une usine à fort potentiel, une marque, mais sinistrée. Et donc, Tapie se dit qu'il va relancer Hinault de la même manière qu'il a, soi-disant, redressé un certain nombre d'entreprises. Donc on est dans ce moment encore presque d'innocence. Hinault était dans une équipe qui s'appelait Renault, donc il y avait cette idée encore un peu, oui, 30 glorieuses, c'est vrai.
Et dans un livre, enquête consacrée au Tour 86, le journaliste britannique Richard Moore écrit « Hinault aime punir ses adversaires, Lemon aime se punir lui-même ».
Oui, ça c'est vrai. On prête à Hinault une citation magnifique, mais certainement apocryphe. Il disait, il l'aurait dit, chaque fois que je pédalais, mon sang charriait des épines. Mais la vérité, c'est que la plupart des grands coureurs cyclistes se subliment dans la domestication de leur propre souffrance. Alors que Hinault, lui, adore infliger la souffrance aux autres. La plupart sont masochistes, lui, il est sadique.
Alors vous qui avez rencontré Hinault et Lemon, les deux, comment décririez-vous ces deux champions d'abord et leur relation ensuite?
Bon, évidemment, on trouve difficilement plus opposés. D'abord, ils ont une différence d'âge importante. Vous l'avez rappelé, Lemon était un admirateur de Hinault dans son adolescence. Oui. Hinault, c'est un personnage très tranchant. Alors que Lemon est tout en rondeur, parce qu'il était obligé, lui, il était en terrain miné. Mmh. Il était sur un continent qui n'était pas le sien, dans un sport qui, aux États-Unis, est inconnu. Donc, il a toujours dû se mettre tout le monde dans la poche. Le peloton, la presse, les sponsors. Et dans le même temps, Lemon disait non, mais Hinault, de toute façon, c'est quelqu'un de pas fiable et qui est dangereux.
Alors, on dit que les deux ont failli en venir aux mains après l'arrivée à Pau, lorsqu'Hinault a pris le maillot jaune, c'est vrai?
Vous savez, l'antagonisme, vous l'avez rappelé, remonte au Tour 85. Parce que déjà en 85, il y a un point d'interrogation géant. C'est, est-ce que ça n'aurait pas dû être la première victoire de Lemon? Lemon le laisse entendre. Il dit, moi, dans les Pyrénées, j'ai freiné pour attendre Hinault. Hein. Ouais. Et j'aurais pu le gagner, celui-là. Et Hinault répond, bah non, regardez quand même l'ensemble de mon Tour de France, certes, je m'explose la figure dans une descente à Saint-Etienne, je les agençant, d'accord, mais le Tour 85, j'avais tout à fait la capacité de le gagner. Puis ça se joue à pas grand-chose, c'est-à-dire que même le Tour 86, il y a cette arrivée à Pau folle, qui est déjà le premier coup de canif dans le contrat, et le lendemain, ce coup de folie qui aurait pu être un coup de génie. Mais si Hinault réussit son coup le lendemain de Pau, imaginons qu'il ne s'écroule pas dans la montée finale de Superbannière au-dessus de Luchon. Mais alors à ce moment-là, s'il a 5, 6 ou 7 minutes d'avance sur Lemon, ça y est, c'est le
c'est
tout.
Pire.
Mais oui, parce que Lemon à aucun moment n'osera attaquer Hinault.
On l'a dit au début de notre récit, Lemon a été victime d'abus sexuels quand il était enfant. Il ne l'évoquera publiquement que des années plus tard. En quoi ce traumatisme est-il central, s'il l'est, pour comprendre le coureur?
Oui, c'est bouleversant. C'est une... une confidence qu'il a révélée donc sur le tard, et c'est certainement son moteur, bien sûr. On se rend compte qu'il y a, une blessure. Chez Hinault, il y a une rage, et chez Lehmann, il y a toujours eu une faille apparente. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Vous avez parlé d'un premier accident de chasse relativement bénin, mais il en subira un plus tard, autrement plus grave, avec 35 plombs dans le corps, qui va, par réaction, déclencher une myopathie. Il va être donc ensuite la victime d'Armstrong, qui va le poursuivre, le détruire financièrement dans la décennie 2000 et quelques. Puis bon, après, il a été aussi malade d'une leucémie. Apparemment, depuis l'été 2025, il est en rémission complète, mais la vie de Lehmann est jonchée quand même d'épreuves douloureuses, dont les abus sexuels ne sont pas les moindres.
France Inter. Affaires sensibles.
Pierre Carré, journaliste, spécialiste du cyclisme. Comment la presse américaine a-t-elle couvert, traité cette affaire, on peut parler d'une affaire sensible, hein, du Tour de France 86?
Eh bien, assez peu, parce que le vélo et les États-Unis, c'est l'huile et le vinaigre. Ça n'a jamais marché. Le New York Times a consacré très peu de lignes aux différentes victoires de Lehmann. C'est drôle de voir à quel point le cyclisme n'a jamais vraiment pris pied sur le continent. C'est un sport très balbutiant. En fait, le tout premier coureur des États-Unis qui dispute le Tour de France, vieux sport, vieille compétition, créée en 1903, c'est à peine au début des années 80. Donc, c'est pas. Par contre, La décennie 80, c'est celle d'un sursaut. Par exemple, les organisateurs du Tour de France avaient créé un Tour of America. Et d'ailleurs, 89-90, il va y avoir un certain Tour of Trump, créé par Donald Trump. Donc, on se dit que peut-être que l'avenir du cyclisme va être américain. Et c'est pour ça que, aussi bien Tapie que les organisateurs du Tour de France sont certes intéressés par une sixième victoire de Bernard Hinault, mais ils ne répugneraient pas à ce que ça soit un Américain qui gagne. Peut-être que c'est tout à fait bon pour leurs intérêts.
On va reparler de Tapie, mais d'abord, est-ce qu'ils se sont réconciliés ces deux-là, Hinault et Lehmann, après ?
Ouais, devant les caméras et pour les besoins de quelques reportages dans les magazines, mais bon, il y a quand même une déchirure. Hinault s'est beaucoup brouillé, hein, avec beaucoup de monde, hein. Il y a eu Fignon, il y a eu Guimard. Disons que ce Tour 86, de toute façon, les a laissés complètement exsangues. Il y a eu des traces et quand même, à partir du moment où vous êtes obligé de faire attention à votre propre vélo et puis à vous demander s'il va pas y avoir des substitutions d'échantillons d'urine pour peut-être créer un faux contrôle positif et vous transformer en dopé, ça veut dire qu'on est dans une théorie du complot absolue.
Absolue, oui. On va parler de Bernard Tapie, justement. Dans cette histoire, a-t-il vraiment tiré les ficelles en coulisses, comme l'affirme Lehmann, pour faire fructifier son image et ses affaires ?
Oui, c'est le vainqueur du Tour 86, Bernard Tapie. Il utilise le vélo pour ensuite aller dans le football, pour ensuite aller à la mairie de Marseille, et là il a échoué, et avoir un destin politique national. Dans le vélo, il se dit qu'il y a un coup formidable à faire. Et c'est vrai qu'il utilise Hinault en 84, lorsqu'il le recrute comme un conseiller technique pour ces nouvelles pédales automatiques dont vous avez parlé, qui sont fabriquées. Voilà, look. Et puis, ensuite, il recrute Lehmann pour être une sorte d'ambassadeur de ces fameuses pédales. Et il lui promet donc un dollar par pédale vendue. Il ne lui versera jamais. Et par contre, il va sortir la planche à billets. Ça, c'est vrai. Et à ce moment-là, il se dit que Lehmann peut lui permettre, en effet, de prendre pied sur le marché américain.
Est-ce que Tapie a permis au Tour, néanmoins, de changer de dimension?
Disons que c'est peut-être le Tour qui a permis à Tapie de changer de dimension. Parce que le Tour, dans ces années-là, c'est encore un peu bout de ficelle. Hein, vous savez, il faut attendre le début des années 90 et l'arrivée d'un certain Jean-Claude Killy à la tête de l'entreprise qui organise le Tour pour que les bénéfices du Tour de France triplent, que les droits télé soient augmentés par 10. Bah, à la fin des années 70, par exemple, Bernard Thévenet, qui est quand même double vainqueur du Tour.
En 76, il a gagné, non?
Alors, 75 et 77, ouais. Ça marche. Et alors, lui, il gagne à peine ce que gagne un cadre en usine. Hein. C'est ça, les salaires. Alors, c'est vrai que tout d'un coup, quand Tapie propose des sommes astronomiques à Lehmann, on se dit, mais alors, simplement, il a rattrapé le temps perdu.
Alors, dans son livre Les Forcenés, l'écrivain Philippe Bordas théorise ce qu'il appelle la mort du cyclisme. Pour lui, il y a un avant et un après Tapie, c'est-à-dire qu'on passe d'un sport romantique et un peu surnaturel à un spectacle standardisé au service d'un capitalisme débridé. Vous partagez ça ?
Bon, ce livre est est une vision absolument éblouissante et aveuglante du cyclisme. C'est le plus grand livre qui a été écrit sur le vélo. Disons que ce qui va se passer quand même, hein, après ce Tour 86, c'est d'abord Lemon qui va encore gagner deux fois le Tour, mais surtout, c'est l'avènement d'Indurain, donc le quinquennat Indurain qu'on a beaucoup rapproché de l'EPO. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans un cyclisme qui est peut-être un peu plus bionique. Et puis, il y a toute une génération qui a perdu pied. Ça correspond aussi à un déclin, un début de déclin populaire du vélo. Donc, à ce moment-là, il y a tous les repères traditionnels, les codes, la télé aussi. La télé va imposer un nouveau marqueur, une nouvelle manière de raconter le Tour. Et moi, je comprends que tous ceux qui ont connu le Tour de France par la tradition écrite et radiophonique aient eu l'impression qu'à partir de Hinault et Tapie, eh bien, le vélo bascule dans autre chose. Disons que quand vous voyez des très vieux articles de presse dans l'après-guerre qui nous disent dans les années 50 que c'était mieux dans les années 30, vous vous rendez compte à quel point le vélo est obsédé par son paradis perdu. Et je crois que c'est un des propres de ce sport qui est très romantique dans l'âme, de penser que c'était mieux avant. Bah non, c'était pas toujours mieux avant. Il y a encore des coureurs très romantiques aujourd'hui.
Lesquels ?
Evenepoel, par exemple. Remco Evenepoel, ce coureur belge, double champion olympique, qui porte beau, qui cherche d'ailleurs à ce qui est toute la Belgique représentée dans le vélo. J'entends, on va le dire très clairement, des Noirs et des Arabes aussi. Il fait un travail extraordinaire, Evenepoel, à demeure en Belgique, pour changer l'image du vélo. Ce personnage fier, ce personnage de mauvaise foi. Il y a des caractères, c'est un sport de caractère. Et malgré toute la technologie, malgré l'afflux financier ne s'est pas fait tellement avec tapis. Il se fait là, maintenant. Les années Pogacar et marge à 12 millions, hein, quand même.
Oui, parce qu'on a des budgets démesurés, des équipes adossées à des États.
Oui.
Effectivement, c'est le cas du AE Emirates, l'équipe de Pogačar.
Tout à fait. C'est maintenant, en fait. Ce qu'on reproche à Tapie.
Pogačar.
Oui, ce qu'on reproche à Tapie il y a une trentaine ou quarantaine d'années, en réalité, on le vit là, maintenant. L'intrusion de l'argent par toutes les vannes, il se fait maintenant. Et au demeurant, ce sport reste quand même encore tout à fait vulnérable, exposé aux intempéries, etc. Vous savez, Pogačar, en 2025, termine le Tour de France diminué. Alors, c'est très relatif hein, pour un personnage comme lui, mais quand même, lui aussi, il a subi une douleur au genou.
Est-ce que le problème du cyclisme aussi, c'est qu'il n'y a pas souvent, pas toujours, un duel?
Oui.
Ce qui est formidable, ce qui soulève la population, l'émotion, c'est quand on en a deux, on est soit Anquetil, soit Poulidor, on est soit Lemon, soit Hinault.
Comme
au foot, s'il y a un leader qui écrase tout, on s'ennuie. Quoi.
Mais c'est vrai. Et Merckx est devenu grand grâce à Ocaña, je pense.
Ah, oui, bien sûr.
Merci Poulidor pour Anquetil, l'inverse est vrai aussi. Copie Bartali, etc. Et alors, on a quand même sous les yeux, hein, dans les années qui sont les nôtres, un des duels les plus installés de l'histoire du Tour de France, c'est celui de Vingegaard, de Pogacar.
Oui.
On peut finalement trouver que les deux personnages sont falots ou qu'on ne les connaît pas assez, ce qui est une réalité. N'empêche, il y a un duel. Et c'est vrai que c'est quand même c'est la force du vélo, le duel.
40 ans, tout juste, après la victoire d'Hinault en 1985, est-ce que la France tient son successeur?
Oui. Allez.
Dis donc, là, c'est bien affirmé.
Alors, on y va. 2028. Victoire de Paul Sexas.
Bon.
Écoutez, il est tout jeune, il a tout pour réussir. On nous a vendu tout plein de coureurs qui n'étaient pas capables. Celui-là est capable, il a une force, il a une intelligence sociale, émotionnelle, intellectuelle, c'est une puissance à tout niveau. Il a le sang-froid, ce qui est une grande qualité pour un vainqueur du Tour. Je le vois se promener dans les couloirs, parfois il me fait penser à Pogacar par ce corps élastique et parfaitement hyperlaxe. Le déclin de Pogacar coïncidera avec son ascension. Alors écoutez, on se dit rendez-vous peut-être en 2027 ou 28.
Paul Sexas.
Ouais.
Bah, très bien, je note, hein,
oui.
Pierre Carrère.
J'ai vu ça.
Bon, merci en tout cas. Merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, duel fratricide sur les routes du Tour en 86, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alex Ola Réouajou au Tinois.